Alors, si on en revient à des, comment dire, des choses que l'on peut faire avec vos élèves, c'est vraiment d'essayer de repérer, justement, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de faire dans ces images-là, mais je pense que vous pourrez en retrouver d'autres, c'est cette figure du cercle, et puis interroger donc les différentes figures du cercle que vous retrouvez donc dans ce film. Donc ces images-là, vous les aurez à votre disposition, hein, vous pourrez les télécharger donc sur le site d'écran VO. Et je ne sais pas si, là, je te demande, Yves, s'ils pourront avoir aussi le film pour en montrer des extraits ou en retirer des photogrammes pour ceux qui le souhaitent.
Le film, il est disponible sur YouTube.
Il est disponible dans le sur le oui sur le carrément sur le site de Camille
Oui, vous
Elvis
pouvez
qui
le
est
voir.
ouais. Donc là, il y a différentes images. Je ne sais pas si certaines veulent les commenter, mais on a à la fois, au début, ça c'est justement sur la période qui est juste avant donc le titre, avant que le titre n'apparaisse, où on a effectivement cette idée de naissance, hein, puisque ce petit personnage naît de cellules et puis après d'un poisson. Hein, donc le lien entre le poisson et puis le petit personnage est très fort, mais on peut, puisque là on a une biologiste, au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est vrai qu'on vient aussi des cellules qui étaient dans la mer, si je ne me trompe pas. Donc il y a vraiment quelque chose à la fois de mythologique, mais aussi de scientifique, d'une interprétation scientifique de l'arrivée, hein, du monde du vivant. Donc, au niveau donc de la Terre. Après, on a bien sûr les représentations donc du soleil, de ce trou aussi de respiration, hein, pour les animaux qui vivent sous la Terre. Alors le troisième, je l'aime beaucoup parce que là, on a à la fois le trou, mais aussi on a l'œil donc de la baleine, hein, avec cette pupille. Et on a à la fois des visions donc vues par dessus. Hein, là, on commence déjà à travailler autour du point de vue, et puis aussi des visions donc vues de profil, notamment avec ce demi-cercle qui peut être vu comme un igloo, mais aussi comme le soleil qui se lève. Et en l'occurrence ici, c'était aussi l'ours, hein, qui était en train donc de dormir. Autre chose qui n'a rien à voir avec le cercle, mais je trouve très très riche au niveau du graphisme, puisque vous avez, enfin certaines ont dit que ce graphisme était très 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 riche. On a ces formes un peu étranges entre l'ours et puis Inukshuk, où en fait ils s'interpénètrent tous les deux. En fait, quand c'est un peu comme un puzzle, hein, qui forme ce demi-cercle. Et là, petite parenthèse, le premier film qui n'est pas obligatoire parle aussi énormément donc d'ours. Donc ça pourrait être aussi intéressant de discuter sur ce lien entre les hommes et puis les ours. Alors pour ce programme-ci, j'ai énormément utilisé ce qu'on appelle des photogrammes, c'est-à-dire la plus petite unité donc des films. Donc c'est la première image fixe, hein, tout à l'heure avec Gaston et puis son grand-père, ils ont dit qu'il fallait 24 images pour 1 seconde de film, 24 images fixes, donc on est à cette unité du photogramme. Et là, je vais vous proposer, j'ai déjà commencé avec cette figure du cercle, à vous proposer donc des images que vous pourriez interroger avec vos élèves. Et là, les deux premières photogrammes, c'est les deux donc qui sont tout en haut. On a d'abord pour la première image une vision donc de face, donc face à Inukshuk, et puis ensuite une vision de profil. Et ce que j'aime beaucoup, je vais peut-être arrêter de parler puis vous donner la parole, mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant en mettant côte à côte ces deux images?
Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais probablement proposer aux enfants qu'on fasse la même chose avec des objets de la classe, et donc d'essayer de travailler sur les différents points de vue pour voir un même objet d'aspect très différent selon là où on le regarde.
Donc en fait, moi, ce que je trouve, que j'ai trouvé assez intéressant, et puis ça sera aussi peut-être des liens à faire entre l'effet de Méride et puis aussi ici, c'est que en fait, quand on voit de face le poisson, se superpose au visage donc d'Inukshuk. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il était, ça devenait son nez, comme s'il ne faisait là encore plus qu'un entre l'animal et puis l'être humain. Et ensuite, quand on voit l'autre image, bah là, c'est une vision plus objective, entre guillemets, de la réalité, puisqu'on le voit porter et que ce qui nous paraissait coller dans la première image, quand on le voyait de face, bah là, on voit la différence. Et j'aime effectivement beaucoup votre idée, et ça pourrait être aussi bah, de faire essayer de prendre des photos de vos élèves avec différents objets qu'ils pourraient mettre et qui remplaceraient leur nez, de faire un portrait composite hein, avec voilà, différentes choses. Et puis pour la banquise, là, ce qui est aussi très très riche, c'est qu'on a quelquefois donc et même beaucoup des visions là encore de dessus, hein, des visions, je dirais, à hauteur d'oiseaux, comme si on était des oiseaux et qu'on filmait au-dessus de la banquise. Et puis bah, une vision donc de profil pour voir notamment bah, cette épaisseur très fine hein, de la banquise, puisque vous rappelez au niveau donc des craintes. Qui était donc celle de Camille Elvis, c'est ben, la disparition petit à petit de cette banquise et qui va ben, remettre en cause ben, la survie à la fois donc des animaux et puis ben, des humains qui vivent dans cette région. Autre chose aussi avec les photogrammes, je vais vous laisser regarder ces trois paires de photogrammes et de vous dire, enfin d'essayer aussi de penser comment vous pourriez vous aussi ben, utiliser ces trois paires de photogrammes.
Je pense qu'il serait très intéressant de travailler le reflet
oui.
avec l'image qui se regarde dans l'eau. Donc l'image elle a été tirée par le bord de l'eau.
Oui, tout à fait. Donc de travailler sur cette idée de reflet, qu'en fonction de la surface sur laquelle on se reflète, il y a bah, une déformation ou pas donc du visage. Oui, très bien. Oui. Bah, très bien, je joue la maîtresse, mais superbe.
Je me disais qu'il y avait quelque chose à faire sur le côté, alors c'est pas premier plan arrière-plan, c'est le côté zoom en fait. Le côté, il est très loin et on est très près.
Oui.
Donc le fait de. Oui, enfin, ce que disait. Tout à l'heure, là encore faire une photo d'un objet pris très loin et d'un objet pris très près et de montrer que ça change complètement la
perception. Ouais. Excellente idée aussi. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que je les ai mis ensemble, ces trois couples d'images?
C'est par rapport au regard du personnage, vers le haut, vers le
bas. Oui, tout à fait. Alors, vers le haut, vers le bas, oui, ça c'est peut-être dans un deuxième temps. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment intéressé aussi, c'est que dans la construction donc, d'un film, dans le montage d'un film, très très souvent, on voit donc le personnage et ensuite il y a des images qui sont ce que voit le personnage, c'est-à-dire qu'on est dans le regard subjectif du personnage. Et ça, vous le retrouverez dans énormément de films. Et le fait de passer d'images objectives où on voit le personnage qui regarde et ensuite on voit ce que le personnage est en train de regarder, c'est très important pour que nous, les spectateurs, on soit en empathie avec le personnage puisque on est comme si on était en fait dans ses yeux et que l'on voit à travers son regard. Et après, ce que vous avez dit est tout à fait juste, c'est qu'en fonction de ce qu'il regarde et l'orientation de ses yeux, eh bien, on a effectivement des points de vue qui sont à hauteur de ses yeux, mais il peut aussi regarder vers le haut, notamment quand il craint fort que quelque chose lui tombe sur la tête. Avant de le voir et de le recevoir, il entend, donc il se tourne vers le son donc du bruit. Et puis, ça peut être aussi vers le bas. Hein, donc là, c'est ce qu'on appelle les points de vue en plongée ou en contre-plongée. Hein, donc ça, c'est vraiment je pense que dès la maternelle, vous pouvez leur donner des petits indices sur la façon dont on fabrique un film. D'autant plus que pour l'effet de mérite, c'est carrément, c'est un film qui est une mise en abîme de la fabrication donc d'un film. Donc je pense qu'avec avec vos élèves, c'est des petites choses comme les plans subjectifs, objectifs, et puis ce que vous avez dit, hein, l'orientation donc du regard et quel point de vue on a par rapport aux actions. C'est vraiment des choses que vous pouvez faire avec vos élèves et qui les passionnent, parce que on est dans comment ça marche, comment est-ce que on fabrique le film. Je continue. Alors là, c'est plus pour vous donner des informations justement sur la fabrication du film, puisque c'est vraiment, je vous l'ai dit, un dessin animé très artisanal où il a dessiné plein d'images, et je pense qu'on voit le grain du papier, enfin le grain de l'encre. Alors là, c'est une projection, je dirais, faussement cinéma. C'est en fait un DVD qui a été projeté en très grand. Vous aurez une qualité lorsque vous irez montrer le film à vos élèves qui sera meilleure que ce que vous avez vu au niveau de la définition donc des images. Donc là, vous avez, vous voyez un petit numéro. Donc là, il a dessiné 24 images pour animer les personnages, hein, que ce soit donc le Inuchuk et puis la banquise et puis l'ours. Et puis à la fin, vous avez est-ce que vous êtes rendu compte qu'on était dans une autre qualité d'image, lorsque notamment il y a la couleur qui apparaît à la fin avec ces choses un petit peu, on dirait des cellules. Enfin, je pense que c'est là où vous avez aussi pensé aux cellules. Et là, en fait, il a, vous le voyez, donc Camille Elvis sur la photo à droite, il a dessiné directement sur la pellicule. Pour ceux qui connaissent les films de Norman McLaren, hein, qui ont été présentés, où c'est que des films dessinés directement sur la pellicule, c'est ce qu'il a fait donc pour à la fin donc de son travail. Et donc là, il y a la couleur, hein, qui apparaît à ce moment-là. Donc on a vraiment deux techniques très très différentes. Ah oui, alors je voulais parler du son aussi. Ah ben oui, voilà, ça c'est ce qu'on appelle des line tests, en fait, où il teste en fait le mouvement de son image. Hein. C'est un petit peu comme les flipbooks dont on pourra aussi parler pour expliquer aux enfants comment on fait un film image par image. On fait plein d'images fixes qui décomposent un mouvement petit à petit. Et ensuite, quand on les passe rapidement, eh bien, on recrée le mouvement et on a l'illusion donc du mouvement. Ça, si jamais pendant la pause entre les deux programmes, vous avez des questions, je serai à votre disposition pour y répondre, surtout pour ceux qui viennent d'entrer dans le dispositif. Donc le film, il est très fort au niveau donc de l'image, mais il est aussi très fort au niveau du son. Et notamment, je pense que vous avez remarqué qu'il est construit avec des épisodes très très précis, notamment qui se passent sur la banquise, et puis cette mer que l'on trouve avec un son très fort où on a des craquements, hein, et notamment de craquements de glace, hein, de banquise qui s'effondrent, et c'est vraiment ça rythme le film. Donc je voulais vous parler du son aussi de ce film-là. Et qu'est-ce que on vient de parler du craquement, hein, de glace, je vous en parlerai, mais qu'est-ce que vous avez aussi entendu comme autre son? De quoi est composée cette bande-son? Du silence, oui, il y en a effectivement. Comment, allez-y? Le rire de l'ours, hein, qui... Ouais. Les petits bruits de l'inuit, hein, qui lui ne parle pas, hein, mais effectivement on entend des petits moments de respiration ou de tout petits interactions avec l'ours. Ouais. Alors le son de la voix de l'ours, c'est ce qui a été le plus difficile à trouver, parce que il a demandé à plusieurs comédiens de le faire, et en fait c'est l'ingénieur son qui a travaillé avec lui. Alors Loïc, tu vas me dire le nom Burkhardt, qui est un ingénieur son de Folimage, qui connaissait Camille Elvis, puisqu'il il est intervenu dans sa formation lorsqu'il a fait La Poudrière, qui était une école donc, à côté de Folimage, dans laquelle il s'est formé. Donc c'est lui qui, tout à la fin, ils n'arrivaient pas à trouver de personne qui allait faire ce bruit, qui a fait ce rire un petit peu tonitruant de l'ours. Donc on a des voix. On a aussi des voix, mais qui font des onomatopées, des petites choses comme ça. On a le bruit de la glace. Alors, des chants de baleines, on a des voix qui chantent, hein, qui peuvent effectivement faire penser aux chants de baleines. Et puis aussi, on a du bruitage, hein, tout ce qui est les glissements, les chutes, les coups. Hein. Et ils ont commencé effectivement à travailler cette bande-son, à enregistrer pendant 3 jours plein de bruitages en utilisant un pare-brise glacé, de l'eau, enfin tout ce travail-là pour vraiment donner une impression de réalité à ces images-là. Et ensuite, ils ont travaillé effectivement sur les voix. Et il y a aussi de la musique, parce que Camille Elvis, il est... non seulement un travail dans le dessin animé, mais c'est aussi un musicien. Et notamment, vous avez des bruits de cordes de guitare électrique. Je ne sais pas si ça vous a... qui font une impression de vibratoire assez importante. Donc, on a tout ce mélange-là. Et je voulais mettre l'accent sur le travail donc de Boris Jolivet, qui est un audio-naturaliste, c'est-à-dire qu'il capte des sons, et essentiellement des sons de la nature. Et c'est lui qui a mis à disposition de Camille Elvis tous les sons que vous entendez, les sons donc de glace qui craquent. Enfin, c'est vraiment un monde minéral qui est très vivant. Et notamment, il a fait des captations qu'on peut retrouver et un petit court-métrage en 2018 sur ces champs de glace. Et essentiellement, ce sont des captations qu'il a fait sur des lacs du Jura. Boris Jolivet, il travaille énormément dans les documentaires animaliers. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Et notamment, il a travaillé pour l'adaptation en prise de vue continue de Bambi, qui va sortir donc sur les écrans dans 15 jours. Donc c'est vraiment un travail très intéressant de comment, à partir des sons de la nature, on peut là aussi recréer une ambiance pour accompagner donc des images donc de films.